William Dewsbury, suite, chapitre XV-1680. William Dewsbury perd en prison sa petite-fille et assistante, Mary Sam, détail de sa maladie et de sa mort, adresse suggérée par l'événement en réflexion sur son caractère à cet égard, William Dewsbury finalement libéré de prison et pitre. C'est durant le temps de son emprisonnement, au début de l'année 1680, que ce doux et patient serviteur du Seigneur fut éprouvé par une affliction domestique, en la personne de sa petite-fille, Mary Sam, enfant de 12 ans et 4 mois décédée. Elle était venue du Bedfordshire, où vivaient ses parents, pour demeurer auprès de son grand-père, alors prisonnier à la prison de Warwick. William Dewsbury avait deux filles mariées dans ce comté, l'une à John Sam, l'autre à un certain John Rush. Nous l'apprenons du fait que George Fox, en 1677, ainsi qu'il est mentionné dans son journal, rencontra William Dewsbury, alors en visite chez son gendre, Rush. À cette occasion, ils assistèrent ensemble à plusieurs réunions dans ce voisinage. Ce qui suit est le récit que William Dewsbury lui-même donne des dernières heures de sa petite-fille, Mary Sam, qui demeurait avec son grand-père, William Dewsbury, au quartier du Sergent, dans la prison de Warwick, où il était et est prisonnier pour le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Le premier jour du deuxième mois de 1680, il plut au Seigneur de l'affliger d'une violente fièvre, qui l'abattit beaucoup en peu de temps. Grande avait été l'épreuve de son esprit quant à sa condition et à son état devant Dieu, pleurant bien des fois lorsqu'elle était seule. Lorsqu'elle avait été bien, sa tante, John Dewsbury, lui demanda pourquoi elle se promenait si souvent seule dans le jardin et était si triste. Elle répondit « Chère tante, je suis tourmentée dans ma conscience faute d'une pleine assurance de mon salut éternel. Car personne ne connaît mon épreuve sinon le Seigneur seul, celle que j'ai traversée depuis que je suis venue à Warwick. Elle avait commencé un peu avant que je vienne, mais ce n'était que peu de choses, mais depuis que je suis venue à Warwick, telle fut mon épreuve, je pensais que je ne vivrais pas longtemps, et que si je mourais, je ne savais pas où irait mon âme. Mais j'espère que le Seigneur me donnera satisfaction avant que je meure. Ce n'est qu'espérance, et quoique ce ne soit qu'espérance néanmoins pour cette espérance, mon âme louera le nom du Seigneur à jamais. » Et elle continua, en ce temps-là, à louer le nom du Seigneur et à faire mélodie de son joyeux, bien des fois dans sa grande affliction. Le lendemain, quelques amis étant dans la chambre avec elle, elle s'ouvrit beaucoup, déclarant comment elle avait observé les voies du Seigneur envers elle dans le passé. « J'ai été deux fois dans ma vie, dit-elle, près de la mort, mais le Seigneur, dans sa tendre miséricorde, a prolongé mes jours afin que je cherche sa face dans la lumière du Christ et que j'apprenne à le connaître avant de partir d'ici. » Ajoutant « Si ce mal n'apaise pas, je dois mourir, mais mon âme ira à la joie éternelle, à la vie éternelle, éternelle et sans fin, et à la paix avec mon Dieu pour toujours. Ô louange, louange à ta majesté, ô mon Dieu, toi qui m'aides à traverser avec patience ce que je dois endurer. » Puis, après quelque temps, elle dit « Amis, nous devons tous partir d'ici l'un après l'autre, et ceux qui vivent le plus longtemps connaissent et endurent la plus grande tristesse. C'est pourquoi, ô Seigneur, si telle est ta volonté, prends-moi auprès de toi, afin que mon âme repose en paix avec toi. Louange, louange soit à ton saint nom à jamais, ta volonté s'accomplissant en moi, pour me prendre auprès de toi, où je serai dans la joie céleste, oui, dans la joie céleste à jamais et pour l'éternité. Le jour suivant, elle désira que tous quittent la chambre afin de pouvoir être seule. Après un temps considérable, comme nous l'entendions gémir sur son lit de malade, sa mère et son grand-père allèrent vers elle, et elle leur dit « J'ai maintenant reçu pleine satisfaction de mon salut éternel. C'est fait maintenant, et chère mère, quand toi ou l'une de mes sœurs mourrez, je désire que le Seigneur vous accompagne. Car je suis très disposée à mourir, afin que le Seigneur glorifie son nom aujourd'hui, sa volonté s'accomplissant en moi. » Et souvent elle priait le Seigneur, jour et nuit. « Ô Seigneur, ne mets sur moi rien de plus que ce pour quoi tu me donnes la force de porter et de traverser avec patience, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, » répétez bien des fois. « Oh, aide-moi, aide-moi, ô mon Dieu, afin que je loue ton saint nom à jamais. » Ainsi continua-t-elle, très souvent, à louer le nom du Seigneur par des sons joyeux et à chanter de hautes louanges à son saint nom à jamais et pour l'éternité. Étant fort épuisée d'avoir élevé sa voix en haute louange à Dieu, par la ferveur de l'esprit, et son corps étant très faible, son grand-père entra dans la chambre et la pria d'être aussi tranquille qu'elle le pourrait, de garder son esprit tourné vers l'intérieur et fixé sur le Seigneur, et de voir si elle pouvait avoir un peu de repos et dormir. Elle répondit « Cher grand-père, je vais mourir, et je ne puis que louer le nom du Seigneur tant que j'existe. Je ne sais que faire, sinon louer suffisamment son nom tant que je vis. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, pourtant je crois qu'il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Ainsi continua-t-elle de jour en jour à parler de la bonté du Seigneur, ce qui fit couler beaucoup de larmes des yeux de ceux qui l'entendaient. Son grand-père venant auprès d'elle, lui demanda comment elle se portait, elle lui répondit, ainsi qu'à sa mère, « Je n'ai eu aucun repos cette nuit ni aujourd'hui. Je ne savais pas si je ne serais pas morte cette nuit, et j'ai eu grand-peine à m'en tirer. Mais je mourrai aujourd'hui, et on fera une tombe, et on mettra mon corps dans un trou, et mon âme ira à la joie céleste, oui, à la joie céleste et à la paix éternelle pour toujours. » Puis elle dit, « Cher grand-père, je crois que tu ne resteras pas longtemps derrière moi quand je serai partie. » Il répondit, « Chère petite fille, j'irai aussi vite que le Seigneur ordonnera ma route. » Alors elle loua le nom du Seigneur pendant un certain temps, par de hautes louanges et des sons joyeux. Puis elle demanda à sa mère de la faire soulever un peu, disant, « Peut-être que cela me donnera quelque soulagement. » Ils envoyèrent alors chercher son grand-père qui lui dit, « Si c'est ton dernier jour, celui où tu dois mourir, il n'est pas sûr que l'on te sorte de ton lit. Chère Mary, tu auras toute l'assistance convenable, te redresser dans ton lit et t'y recoucher, mais te soulever complètement, nous ne voulons pas le faire. » Elle répondit, « Eh bien, grand-père, ce que tu juges le mieux pour moi, je suis disposée à la voir ainsi. » Quand sa mère et sa tante la redressèrent dans son lit, elle dit que cela la rafraîchissait et lui donnait quelque soulagement, et tandis qu'elles arrangeaient ce qu'il fallait faire à propos de son lit, elle dit, « Oh ! Quel remue-ménage ici pour arranger un lit pour quelqu'un qui est sur son lit de mort ?» Sa tante dit, « Mary, penses-tu être sur ton lit de mort ?» Elle répondit, « Oui, oui, je suis sur mon lit de mort, je mourrai aujourd'hui, et je suis très disposée à mourir, parce que je sais qu'il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Sa tante répliqua, « Je crois qu'il vaut mieux pour toi mourir que vivre. » Elle dit, « Oui, il m'est bon de mourir. » Sa mère lui dit alors, « Mary, es-tu bien satisfaite de me quitter, toi et tes sœurs, et d'être venue à Warwick chez ton grand-père ?» Elle répondit, « Oui, mère, j'en suis très satisfaite, car j'ai vu que ma voix était rendue si claire pour ma venue à Warwick. Mon grand-père et moi avons vécu ensemble si confortablement que je suis pleinement satisfaite d'être venue auprès de lui. Je me suis très bien portée, quant à toute affaire de maladie, jusqu'à ce que cette maladie vienne sur moi. » Chère mère, je voudrais que tu te souviennes de mon amour pour mes chères sœurs, mes parents et mes amis, et maintenant je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à faire. Un ami répondit, rien, Mary, sinon mourir. Et elle demanda alors à sa mère de lui donner un peu de posset astérisque clair à boire, astérisque un lait chaud sucré et épicé, caillé avec de la bière ou de l'ale, alors, dit-elle, je verrai si je peux avoir un peu de repos et dormir avant de mourir. Quand la boisson fut apportée, elle en prit un peu et demanda à sa mère de lui en donner un peu pour se rincer la bouche. Après quoi elle demanda quelle heure il était. Comme c'était la fin de la journée, son grand-père dit, « Le carillon sonne 4 heures. » Elle dit, « Je pensais qu'il était plus, je verrai si je peux avoir un peu de repos et dormir avant de mourir. » Et ainsi elle demeura immobile et eut un doux repos et sommeil. Puis elle s'éveilla sans aucune plainte et, dans une disposition d'esprit calme et paisible, elle posa sa tête en paix. Lorsque l'horloge sonna la 5e heure du 9e jour du 2e mois de 1680. Nous dont les noms sont ci-dessous souscrits, avons été témoins oculaires et auditifs de ce qui est ci-dessus exprimé, autant qu'il a pu être recueilli, et cela ne s'écarte pas beaucoup de ce qu'elle déclara quant au fond, bien que des expressions beaucoup plus douces et consolantes soient sorties d'elle. Mais par souci de brièveté, nous qui nous tenions près d'elle lorsqu'elle rendit son dernier souffle, voulons publier seulement ceci. William Dewsbury, son grand-père. Mary Sam, sa mère, John Dewsbury, sa tante, Anna Whitehead, une amie. Le récit précédent était précédé par William Dewsbury d'une exhortation à tous les gens, à estimer leur temps, en rendant sûr leur vocation et leur élection, avant qu'ils ne s'en aillent d'ici et ne soient plus, d'où il ne sera pas inutile d'ajouter un extrait. Par le sentiment profond de votre propre néant, et du besoin de l'aide de Jésus-Christ, la vraie lumière et le Sauveur béni, vers qui vous criez et priez continuellement, afin qu'il achève sa grande œuvre de régénération, en vous conduisant sur les traces des compagnons qui ont subi la tribulation, qui vont en pleurant et en cherchant le Seigneur leur Dieu, demandant le chemin de Sion, le visage tourné vers elle, que vos yeux ne sommeillent plus en paix et que vos paupières n'aient point de repos, jusqu'à ce que vous ayez l'assurance que le Seigneur. Ainsi, vous qui étiez loin, dans votre nature rebelle, dont vous avez maintenant honte, par la vraie repentance et l'obéissance à la lumière, vous êtes rapprochés par le sang du Christ, lequel vous donne pleine assurance de votre salut éternel et purifie vos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Qui que vous soyez, vous qui venez à être témoin de cette œuvre bénie de régénération opérée dans vos cœurs, comme il est écrit ci-dessus, en ce que vous êtes créés à une espérance vivante en Jésus-Christ, remarquez, vous devez veiller et prier, afin que, dans l'exercice et le progrès de cette espérance, vous receviez la force de vous purifier comme lui est pur. Ainsi tous ceux qui sont adorateurs du Père viennent l'adorer en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Ce sont ceux qu'il rend parfaits pour toujours par la sanctification de son esprit. Ainsi cette écriture s'accomplit en vous, celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été faites en Dieu. Jean 3:21. Ce sont ces enfants qui marchent dans la lumière, et ont leur communion avec le Père des Lumières en Jésus-Christ, leur Sauveur béni, et les uns avec les autres dans sa nature humble, douce, pure et bénie, et ainsi deviennent ces joyaux choisis et citoyens de Sion, qui marchent dans la lumière de la Nouvelle Jérusalem, comme il est écrit dans les Écritures de vérité, les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière. Il ne serait peut-être pas difficile de tracer un tableau touchant de la condition désolée de William Dewsbury en ce temps-là, rendu encore plus tel par la mort de sa petite fille, sa compagne de prison et son assistante. Il n'est ni naturel, ni probable qu'elle eût ainsi été enlevée, tandis qu'elle remplissait une fonction à la fois si réconfortante et si utile, sans qu'un esprit sensible comme le sien ressentît quelque douleur. En même temps, tant était depuis longtemps la piété habituelle et la résignation d'esprit de ce véritable chrétien, que nous sommes nécessairement tenus de le considérer dans son véritable caractère. Nous devons donc le voir se soumettant à cela, comme à d'autres dispensations et privations plus ou moins pénibles, qui, dans l'ordonnancement d'une sagesse infaillible, lui avaient été départies tout au long de sa vie, avec cette sainte soumission qui respire le langage de non pas ma volonté, mais la tienne, et se réjouissant de l'avant-goût manifeste de cet état glorieux qu'une personne si jeune était ainsi appelée à hériter. On peut conclure que notre ami avait alors atteint l'âge de plus de 60 ans, et que ses infirmités étaient telles que son séjour prolongé ici-bas était des plus incertains. Il tournait donc lui-même ses regards vers un état futur, et avec des sentiments à l'unisson de ceux de l'apôtre, lorsqu'il disait qu'il avait le désir de s'en aller et d'être avec le Christ, ce qu'il assurait être de beaucoup meilleur que de demeurer. William Dewsbury, avec de tels sentiments, considérait le départ précoce de sa petite fille comme un événement d'un bonheur transcendant. Il nous informe lui-même que, pendant les 19 années de son enfermement à Warwick, il ne fut détenu au secret que pendant 4 d'entre elles, et nous avons, je pense, raison de conclure que la dernière période de son emprisonnement y fut rendue moins pénible par cet élargissement de liberté que ses informations impliquent. Pourtant, il est douloureux de considérer le fait, si l'on accepte sa patiente endurance des torts ainsi accumulés sur lui, que ses chaînes aient été prolongées jusqu'à une période si avancée de sa vie, et que la proclamation du roi, par laquelle il fut finalement libéré, soit survenue quand la pleine jouissance de sa liberté n'était plus en son pouvoir, étant alors non seulement avancé en âge, mais grandement diminué par la longue suite d'emprisonnement et de souffrances qu'il avait endurées pendant tant d'années. En l'année 1686, environ 18 mois avant sa mort, vers la conclusion de l'une de ses épîtres aux amis, nous trouvons le paragraphe touchant suivant. Mes chers amis, par les vives persécutions que nous avons traversées dans la chaleur du jour, et de nombreux longs emprisonnements, ayant été 19 ans prisonniers dans cette ville de Warwick, et 4 d'entre eux détenus au secret, il a plu à Dieu de permettre que ma santé soit altérée, de sorte que bien des fois je suis contraint de me reposer 2 ou 3 fois en allant à la réunion en ville, n'ayant pas la force de voyager comme dans les années passées. Je vous visite, dans l'amour de Dieu, par cette épître, désirant qu'elle soit lue avec soin, dans la crainte du Seigneur, dans les assemblées de son peuple, afin que la paix et l'unité éternelle soient parmi vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut ici introduire à elle épître générale aux amis de cet ancien serviteur du Christ, William Dewsbury, qui suit. Mes chers amis et frères, qui avez été appelés hors du monde et arrachés comme des tisons du feu, par la puissance céleste de Dieu, qui vous a convaincus de sa vérité éternelle dans la lumière de Jésus-Christ, mes chers amis, puisque vous avez reçu la vérité dans une certaine mesure, veillez et priez et croyez au nom du Christ, afin que vous sentiez sa puissance dans l'inspiration céleste de son esprit béni, pour appliquer le jugement à la règle et la justice au fil à plomb, afin que tout ce qui n'obéit pas à la lumière du Christ. Cela vous maintiendra tous dans l'esprit doux, assaisonné et savoureux de la vie, dans toutes vos paroles, votre commerce et vos relations parmi les enfants des hommes. Alors vous, qui gardez la saveur de la vie céleste dans la vérité bénie en vous, serez manifeste et reconnu de tous comme le sel de la terre, de sorte que chacun selon sa mesure pourra être ressenti en toutes occasions comme s'écoulant continuellement dans l'esprit savoureux de la vie pour le réconfort de vos propres familles et de la cité de Dieu, qui, au-dessus de tout, est bénie à jamais. Et, mes chers amis, je désire que tous soient vigilants, afin qu'aucun ne manque à ce qui est requis de lui, tant les chefs de famille que les parents d'enfants. Tant que vous avez un jour pour être avec eux, rassemblez vos familles pour attendre le Seigneur, dans la crainte de son nom. Certes, le Seigneur accomplira le but de vos efforts, en faisant que la vie savoureuse s'écoule à travers vous, pour assaisonner vos serviteurs et vos enfants, afin que l'Église de Dieu soit dans chaque famille particulière et dans chaque demeure de son peuple. Grande est la préoccupation qui pèse sur mon esprit pour les enfants de tous ceux qui professent la vérité bénie de Dieu, afin que tous les parents demeurent à leur place et élèvent leur enfant dans la crainte du Seigneur, tant qu'ils sont en bas âge et dans leur année tendre, et sous leur tutelle, n'étant pas trop indulgents envers eux en laissant l'esprit du monde régner en eux, afin qu'ils aient leur propre volonté et fassent ces choses qui ne sont pas selon la vérité de Dieu, et y consentant au lieu de reprendre leurs enfants, de contrarier l'esprit. Faute de cette vigilance chez les parents, l'esprit de ce monde se fortifie dans les enfants, alors qu'ils devraient être maintenus en bas par l'autorité et la puissance céleste que le Seigneur a donnée aux parents pour régner sur eux. Marchez tous dans la sagesse de Dieu, avec une telle modération en toutes choses, et aussi vêtus d'habits modestes, renonçant à toute superfluité, afin que vos bons exemples puissent relever le témoin de Dieu en vos enfants. Mais faute de ce soin chez certains parents, et parce qu'ils sont trop indulges et pleins de complaisance envers leurs enfants, ceux-ci deviennent grossiers, obstinés, entêtés et désobéissants à leurs parents, au grand chagrin de ceux-ci qui ont ainsi négligé leurs devoirs. C'est pourquoi je désire et vous supplie de ne pas négliger l'occasion que Dieu vous donne dans cette importante préoccupation, être en toute chose de bon exemple pour tous ceux qui vivent avec vous, tant enfants que serviteurs, afin que par votre conduite pieuse et vos exhortations célestes, vous releviez en eux le témoin pour Dieu, exerçant la puissance que Dieu vous a donnée pour contrarier et maintenir en bas la mauvaise nature, tandis qu'ils vivent avec vous. Quand vos enfants grandissent, emmenez-les aux réunions et gardez les yeux sur eux, afin qu'ils se comportent sobrement selon vos exhortations. Puis encouragez-les à faire le bien, ainsi le Seigneur bénira votre conduite douce et céleste dans vos familles, de sorte que les serviteurs béniront Dieu que ce fut jamais leur lot d'entrer dans vos familles, en ce que leurs esprits ont été doucement assaisonnés par la vérité, grâce à votre soin céleste sur eux. Vos enfants aussi magnifieront le nom du Seigneur pour votre soin béni, vos instructions célestes et vos efforts pieux, de toute manière, pour leur bien dans ce monde et leur bonheur éternel dans le monde à venir. Cela couronnera de joie les têtes blanchies des parents, de voir leurs efforts sanctifiés pour leurs enfants, et leur descendance devenue la descendance et les enfants de Dieu. Béni soit son nom à jamais, lui qui entend les prières de son peuple, exercé chaque jour dans l'inspiration céleste de son Saint-Esprit, pour invoquer son Saint-Nom, non seulement pour ses ennemis, mais pour obtenir une bénédiction sur leur famille et sur tous ceux qui aiment la vérité de notre Dieu. Ce sont là les familles qui sont un parfum suave pour le Seigneur, qu'il garde avec l'ange de sa présence, et qu'il rendra manifeste et connu de tous comme ses joyaux choisis, qu'il préservera au jour où il répandra sa vengeance sur les païens qui ne le connaissent pas, et sur les familles qui n'invoquent pas son nom. Si quelques-uns de ces enfants de parents d'esprit céleste, une fois retirés de sous leur tutelle, par manque de vigilance, deviennent négligés et tournent le dos à la vérité bénie de Dieu, et foulant aux pieds tout le soin et les bons conseils de leurs parents, pour satisfaire leur propre volonté dans l'orgueil et la vanité de ce mauvais monde, au grand chagrin du cœur de leurs parents vigilants et aimants, ceux-ci seront purs de leur sang, quand eux ces enfants moissonneront les fruits de leurs actes, à moins qu'ils ne se repentent. Vous tous, jeunes gens et personnes tendres, ainsi que d'autres qui venez parmi les amis, par l'éducation de vos parents vigilants, de vos maîtres ou maîtresses, j'ai à cœur de vous écrire, afin que vous ne vous reposiez pas dans une profession extérieure de la vérité reçue par l'éducation, mais que vous veilliez à la lumière du Christ en vous, qui sonde les cœurs, et qui vous fera voir que vous devez être régénérés et naître de nouveau, et ainsi devenir de véritables et fidèles amis, par l'inspiration céleste du puissant Esprit de Dieu en vous. Si vous veillez avec soin, vous verrez le jugement sur tout ce qui en vous n'obéit pas à la lumière du Christ. Dans cette lumière vous verrez plus de lumière, même votre grande nécessité de jouir de la vie cachée avec le Christ en Dieu. Cela vous fera prier sans cesse, afin que le Seigneur vous rende capable de détester et d'avoir en horreur l'orgueil, la pompe et les plaisirs de ce mauvais monde, et vous donne l'assurance de l'amour de Dieu pour vos âmes. Jusqu'à ce que vous en jouissiez, dans tous vos lieux de retraite, vous répandrez vos supplications avec larmes devant le Seigneur, comme l'ont fait et le font les voyageurs et compagnons bénis et célestes, qui ne pouvaient trouver le royaume de Dieu dans des observances extérieures, bien qu'aucun ne fût plus soigneux à observer ce qui leur était fait connaître comme étant la volonté de Dieu. Mais le royaume de Dieu ne consistant pas en observance extérieure, vous, dans la lumière, avancez selon votre faim et votre soif spirituelle, dans une vraie pauvreté d'esprit, pleurant et cherchant le Seigneur votre Dieu, demandant le chemin de Sion, tourné de ce côté, afin de jouir du salut pour murailles et remparts. Ô vous, enfants bénis du Seigneur, levez la tête et maintenez vos pensées sur le Seigneur, l'attendant patiemment. Il changera vos tristesses en une réjouissance éternelle, et vous scellera de son Saint-Esprit de promesse, et dans l'union nuptiale avec lui-même, et il vous donnera l'assurance de votre salut éternel. Alors vous saurez certainement que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, et que l'onction vous enseigne, ce qui vous rendra capable de prendre plaisir à porter la croix chaque jour, dans une véritable obéissance à la lumière du Christ, tous les jours où vous aurez l'être parmi les enfants des hommes. Alors, au nom du Seigneur, vous foulerez aux pieds tout orgueil, toute pompe, tout plaisir et toute vanité de ce mauvais monde, pour le grand réconfort de vos chers parents attentifs, de vos maîtres et maîtresses, sous la tutelle desquels vous étiez dans votre minorité et vos années tendres, et de tous ceux qui marchent dans la précieuse vérité de notre Dieu, béni au-dessus de tout à jamais. Amen, tous, chers amis et frères, puisque le Seigneur, qui tourne les cœurs des hommes comme des rivières d'eau, et qui, dans sa bonté aimante, dispose ainsi ceux qui sont en autorité, a fait que les portes des prisons se sont ouvertes une fois encore en notre temps, et que nous jouissons de paix et de tranquillité selon sa volonté bénie, louange soit à son saint nom à jamais. J'ai à cœur que tous les amis et frères aient le cœur touché comme le mien l'est, pour vivre dans le sentiment des miséricordes du Seigneur. Et pour le temps à venir, que chacun s'efforce d'empêcher l'ennemi de semer la désunion parmi les amis et frères, comme il l'a fait ces dernières années, par l'opposition publique chez certains, et chez d'autres qui, ne demeurant pas patiemment à leur place, se sont aussi séparés. La différence étant si publique, elle a causé bien des cœurs affligés, et a donné aux ennemis de Dieu matière à se réjouir. Cela a été pour moi une épreuve et un trouble plus grand que toutes les vives persécutions, et tous les emprisonnements que j'ai endurés pour la parole de Dieu, et le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'amour de Dieu, je vous supplie, vous conjure tous, qui avez été ou êtes concernés par ce qui est écrit ci-dessus, de laisser l'amour de Dieu abonder tellement que dans cet amour, tous travaillent à la paix et à l'unité en Christ, le Prince de paix qui par amour a donné sa vie pour nous quand nous étions ennemis. Et en notre temps, il a appelé beaucoup de ses enfants à donner leur vie dans la chaleur du jour, des semaines, des mois et des années, pour rassembler des ennemis à la connaissance de Dieu et à l'union avec lui. Attendez donc la sagesse céleste, afin de vous supporter les uns les autres, afin que si quelqu'un, conscient devant Dieu et irréprochable en sa conduite, ayant sur l'esprit un souci d'édifier le peuple, déclare la vérité dans des assemblées publiques, je vous supplie, dans l'amour de Dieu, qu'aucun, par désaffection, ne manifeste au moins une opposition publique. Mais plutôt, s'il y a raison de parler à la personne, parlez-lui en privé. Ainsi l'ennemi sera empêché de jeter des pierres d'achoppement sur le chemin des personnes d'esprit tendre qui viennent dans l'amour pour être consolées dans la réunion. En agissant ainsi, cela fera abonder l'amour et l'unité parmi les amis, et dans l'amour de Dieu, tous seront restaurés et ramenés à l'unité, ceux qui ont été dispersés, et se réunir tous ensemble dans la vérité éternelle, pour sentir celui qui guérit les brèches, le restaurateur des désolés élevé pour régner dans son royaume au-dedans de tous vos cœurs, et offrir un sacrifice de paix, en passant par-dessus toutes les offenses qui ont causé la désunion, et vous liez tous dans l'unité de l'esprit et le lien de la paix éternelle. Réunissez-vous tous ensemble, vous qui professez la vérité bénie de Dieu pour louer son saint nom, tous comme un et un comme tous, tant que nous sommes dans ces corps mortels, et pour toujours quand le temps ici ne sera plus. Ainsi en soit-il pour vous tous, dit mon âme, au nom du Seigneur, vers qui vont mes prières, afin que tout s'accomplisse comme il est écrit ci-dessus. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi pour vous, je demeurerai votre frère éprouvé dans le royaume de patience et de tribulation de notre Seigneur Jésus-Christ. William Dewsbury, donné dans les mouvements de l'esprit paisible et de la parole de réconciliation, dans le Seigneur Jésus-Christ, vers qui vont mes prières, afin que tous ceux qui sont convaincus attendent d'être rendus du nombre de ce que le Seigneur a frappé, et rendus conformes au Christ dans sa mort. Afin qu'ils soient témoins de sa puissance vivifiante pour les relever dans la résurrection de vie, pour entrer par les portes de Sion, pour demeurer dans la cité de la Nouvelle Jérusalem, où la paix est au-dedans de ses portes et le calme parmi tous ceux qui y habitent, ayant le salut pour muraille et rempart, et ceux-là sont bénis du Seigneur, préservés par lui, à l'honneur de son nom à jamais. Amen. William Dewsbury, prison de Warwick, le 4 du 10 mois, 1686, chapitre XVI, 1688. William Dewsbury visite Londres, assiste à la réunion de Gracechurch Street, sermon et prière sur la nouvelle naissance. Et nonobstant l'âge de William Dewsbury, le déclin de sa santé et ses grandes infirmités, se sentant un peu raffermi et ayant un ardent désir de visiter une fois encore la grande ville et d'y travailler parmi les amis, il eut la foi d'entreprendre le voyage, arrivant à Londres au 3e mois de l'année 1688. Il nourrissait aussi l'espoir d'assister à la réunion annuelle des amis, qui devait s'y tenir le 4 du mois suivant. Peu après son arrivée dans la métropole, à savoir le 6 du 3e mois, il assista à une réunion de culte à Gracechurch Street, où il prononça le puissant et impressionnant sermon suivant, le seul des siens qui ait été conservé. Il est tiré de Sewall, The History of the Rise, Increase and Progress of the Christian People Called Quakers, ouvrage en deux volumes disponible en format PDF sur ce site pour votre lecture, voire le guide de la bibliothèque PDF. Mes amis, si vous n'êtes pas régénérés et nés de nouveau, vous ne pouvez hériter du royaume de Dieu. Telle est la parole du Seigneur Dieu à tous les gens aujourd'hui. Cela ne consiste pas en paroles élevées et en vaine imagination, ni en quoi que ce soit d'autre dont vous vous parez. Chacun, homme ou femme, doit naître de nouveau, sinon vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Telle fut la doctrine du Christ, dans ce corps préparé dans lequel il apparut dans le monde, et il prêcha à Nicodème cette doctrine immuable jusqu'à ce moment même, et elle le sera tant qu'un homme respirera sur la terre. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre porte pour entrer dans la vie, que par cette grande œuvre de régénération. Or, pour contraindre les hommes à venir à cette grande œuvre, et pour les faire avancer de la terre au ciel, tous ayant été chassés du paradis par les chérubins placés avec une épée flamboyante, il n'y a point de retour à cette vie bénie, sinon par la perte de cette vie qui a attristé l'Esprit de Dieu et qui a causé l'expulsion de l'homme, il n'y a pas d'autre voie de retour, sinon par cette nouvelle naissance. De même que vous avez tous été chassés et contraints de sortir du paradis, et que l'épée flamboyante et les chérubins sont placés pour garder le chemin de l'arbre de vie, de même vous devez revenir à la faveur de Dieu par la lumière du Christ, et vous avez ligne sur ligne, précepte sur précepte, ici un peu et là un peu, pour diriger vos esprits vers la lumière de Jésus-Christ. Comme le premier Adam fut fait âme vivante, ainsi le second Adam est esprit vivifiant. Sachez ceci avec certitude, aucun homme ni aucune femme ne peut être vivifié et relevé dans la vie du second Adam, tant que la vie du premier Adam ne leur est pas enlevée astérisque. Astérisque de la parole du Seigneur au-dedans, vous devez perdre votre vie pour la sauver, vous devez haïr votre vie pour perdre votre vie. Peu seront sauvés à cause de leur amour de la vie. Le sacrifice de la vie a été accordé aux quelques-uns qui perdraient leur vie pour la sauver. On meurt réellement pour entrer dans le camp. Vous êtes relevés à une vie nouvelle, pas seulement une imitation, il est un avec nous et toujours présent. Cette perte de la vie, la mort, a lieu lors du baptême de feu et de mort, alors qu'on est pleinement vivant sur la terre. Pour des détails sur ce baptême de feu et de mort, voir la note de bas de page de Matthieu 3, 11-12 sur ce site. Ainsi donc, que chacun de vous traite maintenant avec franchise son propre cœur, comment vous en êtes venu à être un peuple mis à mort pour la vie du premier Adam, vie dans laquelle l'œuvre du mystère d'iniquité agissait dans toutes les parties de l'homme. L'un s'écrie, « Voici le Christ, un autre, le voici là », et chacun suit sa propre imagination au sujet de la lettre de l'Écriture, ce n'est encore que l'esprit vain de l'homme, courant et s'efforçant de se rétablir lui-même, et c'est la cause pour laquelle il y a tant de professions de Dieu, et si peu de sa nature paraissant parmi les fils et les filles des hommes. Profession sans possession maintenant, vous tous qui venez à être régénérés, vous devez venir à la lumière du Christ, il n'y a pas d'autre voie. Il sondera vos cœurs, éprouvera vos reins, mettra vos péchés en ordre devant vous, et retracera les iniquités qui vous entourent. Vous devez donc vous voir comme un peuple perdu, un peuple pécheur, et en venir ainsi à sentir le poids de vos péchés sur vos consciences, il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à la vie. Vous ne vous plaindrez jamais du péché tant que vous n'en serez pas chargé, tant que vous n'aurez pas une trompette sonnant à vos oreilles pour vous réveiller, afin que vous vous leviez d'entre les morts, et que le Christ vous donne la lumière. Il n'y a pas d'autre voie, chers amis. Vous devez amener vos œuvres à la lumière du Christ et demeurer sous la sentence de condamnation. Si vous sauvez vos vies, vous les perdez. Si vous voulez perdre vos vies pour l'amour du Christ, il n'y a aucun danger pour votre vie éternelle. Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, a déclaré « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera entièrement son air, rassemblera son frôme dans son grenier. » Mais il brûlera la paille dans un feu inextinguible. À quoi vous sert de lire les Écritures, si vous ne connaissez pas ce baptême de feu, que tous doivent connaître ceux qui sont régénérés? Ne vous trompez pas vous-même. Le Christ apparaîtra dans un feu flamboyant, et tirera vengeance de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens ici, aujourd'hui, comme témoin du Seigneur de vie. Il n'y a pas de voie pour que les hommes parviennent au salut, sinon qu'ils doivent connaître le Christ révélé dans tout leur cœur. Que fait-il, sinon rendre vengeance à l'esprit charnel, à l'amour de soi, et à toutes les affections désordonnées? Il vient avec vengeance pour ôter votre vie, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si vous n'avez pas fait cette expérience, vous n'êtes pas un vrai chrétien, vous ne regarderez jamais la mort en face avec joie, ni ne descendrez au tombeau avec triomphe. Si vous demeurez chez vous dans le corps, et fuyez pour votre vie, et n'êtes pas disposé à perdre votre vie pour l'amour du Christ si vous y êtes appelé. Et si vous ne voulez pas que le Christ vous lave, certains par timidité, et certains par amour de soi refuseront cela, si le Christ ne vous lave pas, vous n'avez aucune part en lui. Vous devez venir au Christ, afin qu'il vous purifie dans la fournaise ardente. Le jour du Seigneur brûlera comme un four, comme le dit le prophète, c'est un jour redoutable, un jour de vengeance, le jour du Seigneur Jésus-Christ, qui rachète son peuple de ses péchés. Sion est racheté par le jugement et établi par la justice. Ne rendez pas dans vos pensées et imaginations le chemin du ciel plus facile qu'il ne l'est en réalité, et ne croyez pas qu'il suffise de vivre dans une observance extérieure des voies de Dieu. Si vos propres volontés sont vivantes et que vos corruptions demeurent non mortifiées, le jugement de Dieu sera votre part. C'est pourquoi, au nom du Seigneur, venez avec moi, je suis venu déclarer ce que j'ai entendu et vu du Père. Venez et examinez votre conscience. Avez-vous amené vos œuvres à la lumière, alors vous avez reçu la condamnation sur vous-même, et votre arrogance est courbée et abaissée, et vous vous voyez comme un pauvre misérable, devant le Dieu éternel. Quoi que vous sachiez de l'Esprit de Dieu, avez-vous réformé vos voies? Venez avec moi, et dites-moi quel est le fondement de votre foi et de votre assurance. Est-ce votre obéissance et vos qualités? Car si votre obéissance est juste, et vos qualités justes, quel usage en faites-vous? Lisez le livre de la conscience, n'avez-vous aucun fondement pour votre foi? Vous avez revêtu la foi réformée, et vous vivez une vie non réformée. Sondez-vous et éprouvez-vous, homme ou femme. Veillez-vous sur vous-même, et gardez-vous le sentiment de votre séparation d'avec Dieu, malgré toutes vos qualités et votre réforme partielle. Vous efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, et par le chemin resserré? Voici la brebis perdue que vous cherchez, la vie de votre volonté, la vie du premier Adam. La justice de Dieu ne vous permettra pas de faire un sauveur de vos devoirs et de vos qualités, et de prendre les bijoux de Dieu pour vous emparer. Vous ne pouvez être sauvé sans la justice de Dieu en Jésus-Christ. Que dit votre conscience? Avez-vous été amené à ce changement de votre esprit et de votre conduite? Êtes-vous tous disposés à vous séparer de vos péchés, de votre orgueil et de votre arrogance? Êtes-vous disposés à renoncer à vos affections viles? C'est l'œuvre de la grâce de Dieu en vous. Placez-vous votre confiance dans vos devoirs et vos qualités, et prenez-vous les bijoux et ornements de Dieu pour vous emparer. Tu as pris mes bijoux, dit le Seigneur, et tu t'es prostitué. Si tu reviens au Seigneur, si tu t'humilises et franchis cette difficulté, tu seras heureux pour toujours. Ce jugement de Dieu, cette épée flamboyante qui se tourne de tous côtés, vous gardera de retourner au péché, vous amènera au Christ, vous retranchera de toute espérance de salut hors de lui, vous fera voir l'absolue nécessité d'un sauveur, et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est la bonté infinie de Dieu envers les hommes qui leur ôte leur orgueil et les humilie sous sa main puissante. Telle est la condition des pauvres personnes mises à mort par les mains du trésor. Comment puis-je savoir quand j'ai été mis à mort et baptisé, et que je possède cette mort et ce baptême avec sincérité? Ceux qui ont ce baptême entrent dans la vie céleste. Si vous aimez la lumière de Jésus-Christ, il en sera de même pour vous. Dieu fera œuvre brève sur la terre. Il mettra vos péchés en ordre devant vous, vous rendra vigilant pour la prière, vous conduira à la sainteté de vie et de conduite, vous fera vous abhorrer vous-même et mépriser tout le faste, les plaisirs et les vanités de ce monde. Quand il vous aura orné de ses grâces, alors veillez pour la lumière, et dans la lumière du Christ vous verrez la lumière, et vous verrez que tout ce que vous avez fait pour plaire à Dieu, et tout ce que vous pouvez faire pour plaire à Dieu, n'est que votre devoir. Tout cela, vous devez le faire, vous êtes la créature de Dieu, et tout cela ne vous justifiera pas en vue de votre salut éternel, car ces services, vous les devez à Dieu. Si vous attendez avec diligence, vous verrez davantage de lumière, alors l'épée qui sort de la bouche du Christ, qui est appelée la parole de Dieu, vous retranchera de toutes vos espérances de salut tirées de quoi que ce soit que vous ayez fait, de l'une quelconque de vos qualités, de tout ce que vous pouvez faire, de sorte que vous serez une âme sans espérance, n'étant rien selon votre propre sentiment et votre propre compréhension. La puissance du premier Adam doit mourir devant lui, et vous crierez « Je suis une créature morte, Père ». Il n'y en a aucun qui aille jusque-là, qui manque jamais la vie éternelle. Tous les gens fuyants et retors, qui voudraient le salut par le Christ, et ne veulent pas le laisser exercer sa puissance céleste, sa puissance princière et glorieuse pour les baptiser dans sa mort, ce sont eux qui restent en deçà du salut. Mais tous ceux qui se livrent au Christ pour être rachetés par le jugement, et sont devenus comme de petits enfants, ceux-là sont dans un état heureux. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ prit un petit enfant dans ses bras, et dit « Quiconque ne vient pas comme un petit enfant ne peut entrer dans le royaume des cieux. Vous devez tous devenir comme de petits enfants, et dépendre de la miséricorde et de la grâce gratuite de Dieu. Vous devez tous venir à une sainte résignation de vos volontés à la disposition de Dieu. Si vous venez au Christ comme de petits enfants, et dépendez de lui, vous ne pouvez manquer le salut. Il est accordé à de telles âmes qui entendent la voix du Christ. Je me tiens ici, comme témoin du Dieu du ciel. Je n'ai jamais entendu la voix du Christ astérisque, dans l'intensité telle que seul un disciple parvenu à la perfection peut l'entendre jusqu'à ce que j'ai été mis à mort et baptisé, et que je sois resté comme un petit enfant sous ses châtiments célestes, dès que mon âme fut amenée à cela, dans mon humiliation. Oh. Alors le jugement terrible fut ôté, le livre de vie me fut ouvert, et le Seigneur me parla avec consolation, je t'ai aimé d'un amour éternel, et je fus fait chrétien au travers d'un jour de vengeance et d'un embrasement comme un four, et l'arrogance et l'orgueil de l'homme en moi furent abaissés. Astérisque, c'est la voix céleste du Seigneur, semblable au tonnerre sur les eaux, décrite dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Jusqu'alors, il avait entendu la voix douce et subtile de la parole du Seigneur au-dedans, ainsi que le Saint-Esprit, envoyé par le Père au nom de Jésus. Voir la note à Galates 3, 24. Alors qu'il demeurait mis à mort après le baptême de feu et de mort, Dewsbury entendit la voix du Christ, et il passa de la mort à la vie, Jean 5, 24. Or, dans cette conformité à la mort du Christ, les hommes peuvent mourir pour entrer dans la vie, et bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. Abat toutes vos propres volontés, et votre orgueil et votre arrogance, et votre hypocrisie et votre tromperie, et toute dépendance à l'égard de quelconque qualité qui serait les vôtres, il faut que votre vie vous soit séparée, sinon vous périrez tous. À ceux qui veulent mourir avec le Christ, et être disposés à mourir pour lui, il est révélé comme un sauveur. Il nous a précédés au jour de sa chair, et s'est soumis à la volonté de son Père, il a été cloué à la croix. Le Fils de Dieu, lorsqu'il fut parvenu à la profondeur de ses souffrances, quel fut son cri ? « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était pour toi, et pour moi, et pour chaque homme et chaque femme qui croit en lui, il a bu la coupe que son Père lui avait donnée à boire. Si cela a été fait au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec ? Il nous a précédés, et lorsqu'il reviendra, il nous prendra à lui, et nous retirera de l'ordure du péché, afin que nous devenions de nouvelles créatures. Or, à moins de naître de nouveau, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu, et il n'y a pas de devenir de nouvelles créatures jusqu'à ce que nous soyons mis à mort quant au vieil homme. Vous devez être mis à mort quant à votre orgueil, votre arrogance, la corruption de votre propre volonté, et tout égoïsme, il faut que Dieu le brûle en vous. Le Saint-Esprit ne détruira et ne brûlera en vous rien d'autre que ce qui attirerait un feu éternel sur votre âme. Dis-moi, toi que mon âme aime, où est le sentier de la vie, les traces du troupeau de tes compagnons. Pourquoi serais-je comme une qui s'écarte ? Maintenant, que chacun de ceux qui vivent chez eux dans le sein de soi emporte ceci avec lui. Quand bien même vous professez la vérité et vivez dans une conformité extérieure avec elle, pourtant, si vous vous livrez en secret à vos volontés corrompues, et vivez une vie qui plaît à la chair, et consultez la chair et le sang, et n'êtes pas arraché à vos convoitises, vous ne pouvez jouir du Seigneur de vie. Tant que je suis à la maison dans le corps, je suis absent du Seigneur. Le corps de péché est un aimant qui vous attire hors de la vie de Dieu, et loin de la gloire de la croix du Christ, c'est la chair et le sang, et la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Pour l'amour du Seigneur, pour l'amour de votre âme, et pour l'amour de votre bonheur éternel, ne remettez pas cette œuvre, mais poursuivez-la, et elle sera menée à son accomplissement. Voyez comment le Christ est révélé en vous par le Saint-Esprit et par le feu. Dieu vous rachètera par l'esprit de jugement et de brûlement. Ce n'est pas en errant au dehors dans vos pensées, mais il faut que vous sachiez que le Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés, s'il a fixé vos yeux et vos cœurs sur lui-même, et vous a fait mouiller votre couche de vos larmes, s'il a brisé votre sommeil de sorte que vous avez crié « Je serai damné et je n'arriverai jamais au salut, ce sera votre cri, ce fut autrefois mon cri, on ne laissait ni vos yeux sommeiller, ni vos paupières prendre du repos, jusqu'à ce… » Si vous trouvez ces dispositions, vous êtes en chemin autrement, vous serez comme un arc trompeur, et vous ne demeurez jamais dans le jugement, si vous rejetez contre vous-même le conseil de Dieu, et refusez d'être crucifié avec le Christ et d'être baptisé de son baptême, vous n'aurez jamais la vie. Mais seulement par son baptême et par l'opération céleste de son esprit, si vous avez foi au nom du Christ, vous serez unis à lui dans une justice éternelle. Le salut nous sera apporté et la vie éternelle nous sera donnée, cette vie. Ce n'est pas une foi de notre propre fabrication, ni un vêtement de notre propre broderie, mais celle que le Seigneur nous a donnée. Ô heureux l'homme ou la femme qui obtient ce don de Dieu, ô qui ne perdra pas sa vie pour cette vie éternelle, qui ne mourra pas pour cette vie éternelle. Or, la chose réside dans la mort de vos propres volontés. Quand vous avez fait la volonté de Dieu, alors veillez à ce que vos propres volontés soient mises à mort, et que votre maudit moi ne prenne pas les bijoux de Dieu, ses bracelets et ses ornements pour les donner au moi, afin de peindre et parer le maudit moi, et ne prenez pas les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Si vous êtes morts à vos propres volontés, vous êtes ressuscités avec le Christ, et vous recevrez une résurrection pour la vie éternelle. Crucifiez le moi. Tenez le monde pour rien, foule-le aux pieds, ainsi que toutes ces choses, et comptez-les comme boue et fumier en comparaison de Christ, que le Père a révélé être notre vie, au jour de notre tristesse et de notre deuil, au jour de notre calamité, au jour où nous avons crié, notre espérance est perdue. Ainsi en a-t-il été pour les plus saints sur la terre, ce n'est pas par des œuvres de justice qui seraient les vôtres que vous pouvez être sauvés, le Christ vient pour abattre tout cela, afin que vous soyez greffés en lui, et justifiés par sa grâce. N'en faites pas matière à discours en disant « J'ai entendu ceci et cela », mais regardez dans vos propres cœurs et voyez quelles œuvres célestes s'y trouvent. Qu'y a-t-il qui soit de la puissance du Seigneur Jésus, qui vous ait fait prendre en dégoût ce monde et l'amour désordonné de l'homme, afin que vous puissiez jouir de toutes ces choses comme n'en jouissant pas ? Nous ne pouvons, lorsque nous sommes mis à mort et crucifiés à ce monde, que dire « ma vie est en Christ » lorsque nous en venons à ne rien nous attribuer et à tout attribuer au Christ. Voici une heureuse harmonie, des cœurs brisés, des esprits fondus et pourtant des âmes joyeuses, de pauvres créatures qui pleuraient, soupiraient et criaient devant le Seigneur en des lieux retirés et pourtant se réjouissaient en Jésus-Christ. Je suis ressuscité avec Christ, je disais, mon espérance est retranchée, me coucherai dans ta volonté, ô Dieu, fais de moi ce que tu voudras, c'est selon ton bon plaisir souverain et ton libre don, si tu me donnes la vie ou si tu me la refuses. Il faut une résignation de nous-mêmes à la volonté de Dieu. Il en fut ainsi pour le Seigneur Jésus, et il en est ainsi pour tout vrai saint de Dieu. Vous devez être humiliés comme de petits enfants, avant que le jugement ne soit ôté et que la bonté de Dieu ne soit scellée sur vos âmes. Si vous cherchez cette œuvre de Dieu, vous la trouverez. Si vous la cherchez sur vos lits, dans tous vos travaux et préoccupations, dans toutes vos conditions et relations, si vous aspirez à la nouvelle naissance, vous devez user de ce monde comme n'en usant pas, et vivre une vie mariée comme si vous n'étiez pas marié, car la figure de ce monde passe. Ce ne sont pas là de hautes notions, d'imaginaires élevés. Mais laissez-moi vous le dire, un monde nouveau vient par la régénération. Un homme n'est pas élevé à ses propres yeux, mais abaissé à ses propres yeux. Il attend que la sagesse de Dieu le gouverne, et il est comme un intendant de la grâce de Dieu, pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Lorsqu'un homme est régénéré et né de nouveau, il est aussi content avec du pain et de l'eau qu'avec toutes les jouissances de ce monde. Quelle différence! Sa propre volonté s'en est allée, et a été abattue sous ses pieds, avec tout ce qui donne vie à ses désirs et affections vains. Il y a une harmonie intérieure, un homme louant Dieu et bénissant son saint nom. Il n'y a pas d'entrave pour détourner le cœur du service de Dieu et de la recherche de sa gloire. Et si Dieu appelle le mari loin de la femme, ou la femme loin du mari, pour la gloire de son nom, il n'y a ni gignement, ni plainte, ni cri, mais on les remet, et on loue et bénit Dieu quand on est appelé à un tel exercice. Et si l'on n'est pas appelé à cela, alors on met son cœur à glorifier Dieu dans ses divers lieux et états, alors on a une pleine satisfaction dans une bienheureuse résignation. Ici, leurs volontés sont mises à mort, mais ils louent Dieu de n'avoir aucun désir sinon, « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Toujours loin Dieu, ayant toujours la crainte et la gloire de Dieu devant leurs yeux, tout le mal se trame dans la recherche du plaisir des propres volontés des hommes, c'est-à-dire le conseil de tout cœur que le Christ ne gouverne pas. Voulez-vous vivre comme les Quakers, alors vous devez vivre dans le mépris. La maîtresse et la servante sont bonnes compagnes, bien rencontrées. Chacun doit marcher dans l'humilité et vivre dans la familiarité avec le Dieu du ciel. Celle qui est travaillée par le même esprit doit, avec toute diligence, se conduire comme il convient à une servante du Seigneur. Voici maintenant un monde nouveau, et les modes de l'ancien monde ont disparu, l'orgueil, l'arrogance, l'âpreté, et le fait de se piétiner les uns les autres ont disparu, tous mis à mort par l'opération du Christ. Que reste-t-il maintenant? Christ est en moi, et nous sommes tous un en lui. Christ a donné sa vie pour toi et pour moi, maintenant il règne en moi, et il a préparé mon corps à mourir pour la vérité, comme son corps préparé fut livré pour mon péché. C'est une sorte de profession insensée que de faire profession du Christ et de vivre dans l'avarice, l'impiété, la sensualité et autres choses semblables. Ceux qui sont parvenus à cette naissance céleste recherchent les choses d'en haut, vous ne pouvez faire autrement. Rendez l'arbre bon, et le fruit sera bon. Vous devez être greffés dans la vigne de la justice de Dieu. Oh, ne méprisez pas le jour de votre visitation. Que m'importait-il de lire que certains naissaient de nouveau, jusqu'à ce que je sois mis à mort, et que je connaisse le baptême céleste de Jésus-Christ, jusqu'à ce que je voie l'épée flamboyante prête à me tuer de toutes les manières, à chaque tournant. La lumière du Christ m'a convaincu de péché, et sa justice m'a justifié, et ses œuvres me furent abominables, qui empêchaient le passage de mon âme vers le Christ. Jésus-Christ, en unissant mon âme à lui-même, s'est saisi de moi et a opéré efficacement en moi. Il y a le témoignage du Christ en moi, il a scellé mon âme jusqu'au jour de ma rédemption. Voici un passage certain, et une voie certaine que nul ne manque jamais, ceux qui perdent leur vie pour le Christ. Si vous n'êtes pas prêts et disposés à perdre vos vies pour le Christ, vous ne viendrez jamais ici. La porte est étroite, et le chemin resserré. Nul ne vient ici sinon ceux qui meurent pour entrer dans une unité céleste avec le Christ. Ô amis, vidons-nous, afin que le Christ nous remplisse. Ne soyons rien à nos propres yeux, afin d'être tout en lui et de recevoir de sa plénitude. Maintenant je vous recommande aux témoins de Dieu, afin que vous vous souveniez de ce qui a été dit parmi vous. Mais considérez, si vous ne l'écoutez pas, cela vous poursuivra et sera pour vous un fléau pour toute l'éternité. Si vous ne vous livrez pas au Christ, ce jour qui brûle comme un four, ce feu, vous devrez y demeurer lorsque vous serez hors du corps. Il n'y aura jamais d'extinction de ce feu, mais si vous êtes assez sage pour vos âmes pour vous remettre au Christ et venir à lui comme de petits enfants, cela n'empêchera pas vos affaires terrestres. Quoique le monde vous tienne pour un insensé, vous avez cependant cette part de sagesse céleste de faire ce que vous faites comme pour Dieu. Vous vous conduisez envers votre épouse comme sous le regard de Dieu, afin qu'elle vous soit sanctifiée, et vous à elle, et vous vous conduisez convenablement envers vos enfants et vos serviteurs, et vous abondez en grâce et en toute bonne œuvre, ce qui sera pour votre bien éternel. Oh, je vous en supplie, peuple, pour l'amour du Seigneur, attendez que la lumière du Christ vous guide, apprenez de lui à être doux et humble de cœur, alors vous êtes heureux, car il demeure avec les humbles, mais il regarde les orgueilleux de loin. Cette nouvelle naissance, qui est une œuvre véritable, une œuvre sincère et céleste, qui vous rendra heureux pour toujours. Oh, faites place au Christ dans vos cœurs, autrement il n'est guère probable qu'il demeure avec vous, il aime à demeurer avec l'esprit pauvre, humble et contrit, il abhorre les orgueilleux, il videra vos âmes, afin de les remplir, et ainsi je vous recommande à Dieu. J'ai été longtemps retenu en prison, dans une grande faiblesse, et j'étais sans repos jusqu'à ce que je puisse monter dans cette grande ville de Londres pour vous prêcher l'Évangile éternel, et vous voyez que je suis ici parmi vous. Je vous prie, chacun de vous, tournez-vous vers l'intérieur, que ces paroles, passant par un vase sans honneur, ne soient pas pour vous un simple discours vide de vérité, que vous n'entendez que de l'oreille, sans vous soucier davantage de votre salut. Prenez garde de mépriser la lumière qui brille au milieu de vous, et avancez avec ardeur vers l'œuvre céleste qui repose dans la puissance de Jésus-Christ, à savoir par le jugement juste dans la mort, et alors il donnera la vie éternelle. Que le Seigneur confirme cela, afin que cela demeure sur vos cœurs, afin que vous soyez morts aux choses du monde. Nous n'avons pas à venir à la montagne de Sinaï, qui engendre la servitude, mais nous sommes venus à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une multitude innombrable d'anges, à l'Assemblée générale et à l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des justes parvenus à la perfection, et à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui dit de meilleures choses que celui d'Abel. Tel est l'héritage des rachetés du trésor, béni soit le nom du Seigneur, reposons-nous dans l'espérance, jusqu'à ce qu'il nous amène à l'humilité et à l'abaissement d'esprit, afin qu'il nous revête de gloire céleste, selon sa promesse, « J'ornerai ma maison de gloire », a dit le Seigneur. Voilà la part d'un pauvre peuple qui s'abaisse devant le Seigneur, afin qu'il l'élève et soit tout en tout pour lui, et dans sa bienheureuse présence ils auront la joie, et des fleuves de délices à sa droite pour toujours, ce qui suit est la prière qu'il offrit après le témoignage précédent, « Dieu béni et glorieux ». Ta présence et ta puissance sont avec ton peuple partout, et tu étends ton bras tout-puissant pour le salut de tes élus, et tu influences leurs âmes par ta grâce et ton esprit dans leurs réunions et assemblées solennelles. Nous désirons exalter et magnifier ton grand et excellent nom pour toutes tes miséricordes et bénédictions. Nous te prions, incline ton oreille céleste, et écoute les cris et les supplications de ton peuple, qui exhale vers toi le désir de son âme. Tu es un Dieu qui exauce les prières, pourvois à leurs besoins, affermis leurs esprits, et soutiens-les par ton esprit libre. Couronne tous tes élus de ta bonté et de ta tendre miséricorde, déchire le nuage de ténèbres qui pèse sur nous et ôte le voile, abaisse les cieux parmi nous, visite-nous de ton salut, et révèle-nous les mystères de ta vérité, et dans toutes nos voies, fais que nous te reconnaissions, tandis que tu nous conduis dans le chemin éternel, Dieu juste d'amour. Tant que nous vivons sur la terre, que notre conduite soit au ciel, où Christ, notre médiateur, siège à ta droite, que nous suivions son exemple, lui qui était saint, innocent et sans souillure, afin que nous siégions avec lui dans les lieux célestes. Sois pour nous un soleil et un bouclier durant notre pèlerinage terrestre. Qui avons-nous au ciel sinon toi? Il n'y a rien sur la terre que nous désirions en dehors de toi. Fais que nous marchions devant toi dans la sincérité et la vérité, et conduis-nous dans le chemin de la vérité et de la justice par ton esprit béni. Béni soit ton nom pour la lumière de ta vérité salvatrice qui a brillé dans nos esprits, et pour la lumière de ta face, qui a été levée sur nous dans nos réunions, tu as dressé une table pour ton peuple comme au jour d'autrefois. Nous ne pouvons que nous émerveiller de ton grand amour et de ta condescendance envers nous, et exalter et bénir ton saint nom pour tes miséricordes abondantes et les richesses de ta bonté envers nous. Nous désirons te rendre honneur et renom, louange et action de grâce pour tes miséricordes renouvelées et tes bénédictions spirituelles en Jésus-Christ pour lequel nous te bénissons, et en lequel nous désirons être trouvés, n'ayant pas notre propre justice. À lui, avec toi-même et ton Saint-Esprit éternel, soit la gloire pour toujours. Amen. Chapitre XIX 1688. William Dewsbury tombe malade à Londres, adresse une lettre à la réunion annuelle, rentre chez lui, ses dernières heures adresse avant la fin sa mort et son caractère témoignage de ses amis à son sujet. William Dewsbury demeura à Londres jusqu'au 30 du 3 mois, désirant assister à la prochaine réunion annuelle. Mais étant tombé malade peu après la réunion à laquelle il avait été si largement occupé, et son mal continuant de s'aggraver, il adressa la lettre suivante à ses amis, puis prit le chemin du retour. « Chers amis et frères, J'ignorais, jusqu'à cette dernière nuit, autre chose que j'aurais été avec vous à la réunion annuelle. Mais il plut au Seigneur de me visiter de mon ancien mal, qui m'a accompagné de longues années en prison, et depuis que j'en ai été délivré. Le mal fut si aigu sur moi cette dernière nuit, que je ne savais pas si je vivrais pour voir un autre jour, mais, criant au Seigneur, il a ordonné et dégagé mon chemin pour aller à la campagne. Ainsi je ne puis être avec vous à la réunion annuelle, mais je désire que le Seigneur vous assiste de sa puissance bénie et de sa vie céleste, afin de rassembler les dispersés pour leur consolation éternelle et pour sa gloire à jamais. Amen. Et que cela soit ainsi pour vous, telle est la prière de votre frère qui vous aime, William Dewsbury, Londres, le 30 du 3 mois, 1688. Bien qu'il eût la faveur d'avoir assez de force pour rentrer chez lui, par de courts voyages aisés, il ne vécut que 17 jours après la date de la lettre ci-dessus. Environ une semaine avant sa mort, quelques amis étant réunis dans sa chambre, se levant de son lit dans une grande faiblesse du corps, il s'adressa comme suit : « Mon Dieu a encore mis dans mon cœur de rendre témoignage en son nom et pour sa vérité bénie, et je ne puis jamais oublier le jour de sa grande puissance et de sa bienheureuse apparition, lorsqu'il m'envoya pour la première fois prêcher son évangile éternel et proclamer le jour du Seigneur à tout le peuple. Il confirma cela par des signes et des prodiges, et en particulier par une femme boiteuse qui marchait avec des béquilles, là où, avec mes chers frères George Fox et Richard Farnsworth, nous fûmes jetés, et comme je criai puissamment au Seigneur en secret, pour qu'il se manifestât de manière signalée à ce moment-là parmi nous, et qu'il rendit témoignage de sa puissance et de sa présence avec nous, Richard Farnsworth, au nom du Seigneur, la prit par la main, et George Fox ensuite lui parla dans la puissance de Dieu, et lui dit de ce. C'est pourquoi, amis, soyez fidèles, et mettez votre confiance dans le Seigneur votre Dieu. Car je puis dire ceci, je n'ai jamais joué depuis le lâche, mais je suis entré avec joie dans les prisons comme dans des palais, disant à mes ennemis de m'y retenir aussi longtemps qu'ils le pourraient. Dans la prison, je chantais des louanges à mon Dieu, et j'estimais les verrous et les serrures qu'on mettait sur moi comme des bijoux, et au nom du Dieu éternel j'ai toujours remporté la victoire. Car il ne pouvait me garder plus longtemps que le temps déterminé par mon Dieu. Amis, ceci, je dois encore une fois vous le rendre en témoignage au nom du Seigneur Dieu, ce que j'ai vu il y a plus de 30 ans demeure encore comme un témoignage que je laisse derrière moi, qu'un jour terrible et effrayant est proche, et qu'il arrivera certainement, mais je ne puis dire quand. Mais que tous prennent force au nom du Seigneur, et attendent de sentir sa puissance éternelle et préservée au travers des tribulations de ces jours-là, qui s'approchent de très près, et dans le sentiment de quoi j'ai souvent été affligé et abaissé en esprit, avec des cris et des larmes vers mon Dieu, pour la préservation de son héritage. J'ai encore ceci à signifier, mon départ approche. Béni soit mon Dieu, je suis prêt, je n'ai rien à faire sinon mourir, et dépouiller ce tabernacle mortel et corrompu, cette chair qui a tant d'infirmités. Mais la vie qui y demeure transcende tout, hors d'atteinte de la mort, de l'enfer et du tombeau, et l'immortalité et la vie éternelle sont ma couronne au siècle des siècles. C'est pourquoi vous qui restez derrière, ne craignez pas et ne vous découragez pas, mais allez de l'avant au nom et dans la puissance du Seigneur, et rendez pour lui, en votre temps, un témoignage fidèle et vivant. Le Seigneur fera prospérer son œuvre dans vos mains, et fera fleurir et se répandre sa vérité. Car elle remportera la victoire, et aucune arme formée contre elle ne réussira. Le Seigneur l'a déterminée, elle possédera les portes de ses ennemis, et sa gloire et sa lumière brilleront de plus en plus jusqu'au jour parfait. Il conclut par des prières au Seigneur, et par d'ardentes aspirations et supplications pour tout son peuple partout, mais plus particulièrement pour ses très chers amis, rassemblés à la réunion annuelle à Londres, et il quitta cette vie environ une semaine après, à savoir le 17 du 4 mois, 1688 à Warwick, et fut enterré le lendemain. Si nous nous détournons de cette dernière étape du pèlerinage de William Dewsbury, et de sa fin triomphante, pour revenir aux périodes plus anciennes de sa vie, nous ne pouvons manquer d'arriver à la conclusion qu'il fut un homme d'un caractère peu ordinaire. Ses vues claires des choses divines, qui accompagnèrent son esprit du premier au dernier, de l'enfance à la vieillesse, et qu'il reçut sans doute comme un don céleste, comme la révélation essentielle de la grâce et de la vérité de Jésus-Christ, ce sens intérieur, il eut pour souci constant, sans dévier, de lui obéir et de le suivre. Il reçut véritablement l'évangile ni d'un homme, ni par un homme, et il ne fut pas instruit, sinon par la révélation de Jésus-Christ. L'ardeur et la sincérité avec lesquelles William Dewsbury poursuivit et rechercha cette intelligence divine des sujets divins, ses impressions et convictions secrètes de l'amour divin visitant l'esprit et l'instruisant, furent très grandes, il faut l'avouer, même durant de nombreuses années avant que son esprit ne reçût pleine satisfaction quant à son salut et à sa paix avec Dieu, et avant qu'on puisse dire qu'il était parvenu à un établissement en religion. Son parcours ultérieur fut en effet semblable à la conduite de l'homme qui bâtit sa maison sur le rocher, les portes même de l'enfer ne purent prévaloir contre lui, son esprit était ancré, et tout ce qui lui arrivait ne servait qu'à le confirmer dans le chemin tracé devant lui, il endura comme voyant celui qui est invisible, immuable, il savait que son Rédempteur était vivant, et le sentait proche, lui qui le justifiait. Comme on peut dire, avec vérité de William Dewsbury, qu'il marchait par la foi et non par la vue, cette foi même par laquelle les anciens ont reçu un bon témoignage, et qui était pour lui comme pour eux la substance des choses espérées, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Par quel autre principe que la suffisance totale de cette foi divine, la foi en la présence et la puissance du Christ intérieurement révélé, pourrions-nous expliquer qu'il se soit engagé si délibérément dans ce sentier difficile et inexploré, qu'il y ait persévéré à travers tous les obstacles, qu'il ait enduré avec douceur et patience toute contradiction, triomphé de toutes les difficultés, et qu'il soit finalement devenu plus que vainqueur. En adoptant cette vue du caractère de William Dewsbury, façonné sur le modèle de la foi apostolique, il n'y a aucune difficulté à rendre compte de quelque part que ce soit de sa conduite, si inconciliable qu'elle puisse paraître sur d'autres bases. Suscité par la puissance divine pour un service particulier, ou l'humain vrai compagnon de joug, et s'étant soumis à ces profonds baptêmes indispensables dans la grande œuvre de la régénération, par lesquels sa propre nature fut changée, sa volonté corrompue soumise, le premier Adam mis à mort et le second Adam relevé en lui, esprit vivifiant pour dominer et régner en toutes choses, William Dewsbury ne semble jamais avoir consulté la chair et le sang, et il ne semble pas non plus qu'il ait été, à aucune période, les. Ayant une fois mis la main à la charrue spirituelle, il ne regarda plus jamais en arrière. Si son lot fut de souffrir pour le témoignage d'une bonne conscience, il ne murmura jamais, mais suivant l'exemple du grand modèle, il se remit à celui qui juge justement. Les afflictions et persécutions qu'il subit n'ébranlèrent ni sa foi, ni ne le lassèrent, ni ne l'offensèrent, parce que son fondement était sur le rocher, c'est là qu'il se tenait. S'il triomphait, c'était comme un serviteur qui se réjouit du service et de l'œuvre de son maître, bonne volonté envers les hommes, et ainsi pour accroître la gloire de son maître, et le moi, par la puissance de l'amour rédempteur, étant devenu pour lui sans réputation, il rendait invariablement pour son succès le tribut d'action de grâce et de louange à celui auquel seul il sentait que cela appartenait. Ce notre cher frère défunt, disent ceux qui ont laissé ce mémorial, était un homme religieusement soucieux de l'honneur de Dieu, et portait un grand soin dans son esprit que ceux qui avaient cru et fait profession de la vérité y répondissent par une vie et une conduite sainte et irréprochable. Ce qui, disait-il souvent, ne pouvait jamais se faire par l'étendue du savoir ni la force de la compréhension, mais par une réelle mort à leur volonté et affection, par la vertu de la croix quotidienne. Il fut de ce que Dieu suscita de bonne heure, au matin de son jour glorieux, et qu'il fit un instrument éminent en sa main pour la publication de son jour puissant et de sa puissance, prêchant la repentance en vue de la rémission des péchés, et portant un témoignage fidèle et universel à la grâce gratuite de Dieu envers le genre humain. Le Seigneur était avec lui et le fit prospérer dans ses nombreuses souffrances, ses voyages, ses travaux et ses exercices dans l'Évangile du Christ et la parole de son ministère. Plusieurs furent rendus sensibles aux bénéfices de ses travaux pour le bien et le salut de leurs âmes immortelles. Car le Seigneur notre Dieu, dans la crainte et le zèle duquel il travaillait, le revêtit de foi et de courage, et d'une grande hardiesse pour son nom et sa vérité, et il publia le tout avec une grande simplicité, et dans sa simplicité même. Au cœur tendre, il était extrêmement tendre, mais aux obstinés et aux hautains, il était tranchant et direct, les avertissant et déclarant le juste jugement de Dieu contre cet état attendant, et s'efforçant avec beaucoup de patience et de longanimité, d'obtenir le relèvement de ceux qui, par la subtilité de l'ennemi, sont tombés hors de la vérité et de l'unité avec le peuple de Dieu, parmi lesquels il était sincèrement dévoué à maintenir l'amour et l'unité. Mais lorsque certains en ont fait leur œuvre de provoquer division et discorde, et de semer la dissension parmi les frères, ils témoignaient ouvertement contre eux et les rejetaient, et dans la crainte de la puissance du Seigneur, tenaient le jugement de Dieu contre leur tromperie et leur méchanceté, comme il le fit lors de sa dernière visite à Londres, quelques jours avant son départ hors du corps, ce qu'il dit alors à quelques-uns d'entre nous être proches. Il était ferme et assidu dans la prière à Dieu pour le bien de son Église, et pour le rassemblement des hommes en leur vrai repos, en quoi nous avons eu une véritable unité avec lui. Nos âmes et beaucoup d'autres ont souvent été rafraîchies et consolées avec lui. Ses nombreuses souffrances profondes pour la vérité et ses fidèles voyages et travaux ne doivent jamais être oubliés. Bien que l'envie d'hommes méchants et déraisonnables fût très grande et ardente contre lui, il ne craignait ni leur malice, ni leurs menaces, ni leurs coups, mais allait hardiment publier la vérité en rendant témoignage à ce qui est de Dieu dans toutes les consciences. La main de la providence divine le délivra souvent d'une manière merveilleuse des mains des méchants, à cause de son nom. Enfin, ayant fidèlement servi sa génération, et achevé ses souffrances, son témoignage et sa course avec joie, il a maintenant obtenu la couronne immortelle, et il est entré dans le repos éternel, loin de tous ses travaux, et ses œuvres le suivent, avec une bienheureuse récompense dans le royaume de gloire et de paix. Les paragraphes précédents forment la plus grande part d'un témoignage rendu à sa mémoire peu après sa mort, auquel sont attachés les noms de six amis, à savoir George Whitehead, Francis Camfield, Richard Find, Stephen Crisp, Richard Richardson et James Parks. Vers l'annexe de ces lettres supplémentaires, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.